Salut les chefs de service.
Salut.
Alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui s'appelle Que Dios nos perdone, un film espagnol qui est sorti là à Paris au mois d'août 2017, un film de Rodrigo Sorogoyen. Alors on est en Espagne, à Madrid, en 2011, en plein mouvement des indignés, en pleine crise économique. Il y a également le pape François qui débarque et il y a un violeur en série qui viole et puis qui tue des femmes très âgées. Alors est chargé de l'enquête un duo de flics, Velarde. C'est un flic bègue, totalement asocial, pathétique, il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, mais qu'on nous présente comme un flic aux méthodes iconoclastes et assez rigoureuses, et qui est vraiment déterminé dans l'élucidation de l'affaire. C'est vraiment lui qui va flairer le premier le coup du violeur de femmes âgées, et qui va insister pour qu'on prenne au sérieux cette piste. Et donc il y a son binôme, Alfaro, qui est sur le point de se faire virer de la police parce qu'il a tabassé un collègue à tel point qu'il est devenu borgne, qui est lui complètement beauf, impulsif, ultra-violent, mais qui a une famille, un chien et une maison à la campagne. Donc pour info, ce film ne rentre même pas dans la compétition du test de Bechdel, parce que les quelques personnages féminins, elles sont trois, hein. Donc il y a une collègue flic qui doit prononcer à peu près quatre phrases dans le film, et il y a la fille et l'épouse du bad cop. Bien sûr, l'épouse est adultère. Donc je pense que sur 2h06 de film, les trois personnages féminins doivent apparaître 3 minutes au total. Personnages féminins récurrents, donc des septuagénaires isolés dans la grande ville, apparaissent à l'écran déjà mortes et violées par un psychopathe. Nous découvrirons par ailleurs que le psychopathe, il est jeune, il est beau gosse, il est athlétique, il est propre sur lui, il a plein de bonnes manières. Donc le réalisateur, il a clairement l'intention de nous dépeindre ces personnages sans concession, mais en suscitant l'empathie et l'attachement, en les rendant humains, en nous donnant des clés de compréhension sur leur névrose et sur leur inadaptation à ce monde. Donc en gros, le film, c'est ça, c'est l'enquête par deux flics bracassés qui vont chercher à identifier et à traquer le violeur en série. Donc Velarde, le flic freaky et bègue, il va avoir un coup de cœur pour Rosario, la femme de ménage de son immeuble. Un coup de cœur qui apparemment est réciproque. Après quelques échanges courts et maladroits dans les couloirs, Rosario sonne chez lui et lui apporte du gazpacho. On est en Espagne. Elle entre donc chez lui, il sert le gazpacho, et là, alors qu'elle est en train de regarder les disques qu'il a chez lui, il se colle derrière elle avec force et violence, il la maintient de telle sorte qu'elle ne puisse pas bouger, et il commence à dégrafer son pantalon. Il s'apprête à la violer. Alors elle se débat, elle finit par se dégager, ce faisant elle tombe par terre, elle se cogne la tête contre un meuble, ce qui la fait saigner, et elle parvient à s'enfuir rapidement de l'appartement. Donc là, gros choc, parce que le flic qu'on nous avait vendu comme freaky mais sympathique au début du film est un violeur en puissance. Seconde séquence, quelques minutes plus tard dans le film, long plan séquence où ils vont se croiser dans un couloir au rez-de-chaussée, donc ils arrivent tous les deux d'un bout à l'autre du couloir. Donc là, on se met à la place de la fille, on est vraiment terrorisé, on se dit « Ok, donc là, il va y avoir un moment où ils sont tous les deux isolés, il fait nuit, etc. » On craint vraiment que Velarde la réagresse, mais non. Il lui parle pas, il la touche pas. On se dit bueno, il a su se contrôler, ça va pour elle en tout cas. Scène d'après, ça sonne à la porte de chez Velarde, il regarde dans le Judas et là c'est elle. Donc là je commence à avoir le cœur serré. Il hésite longuement derrière la porte mais il ne lui ouvre pas. Donc là, nouveau message envoyé par le réalisateur, la fille vient le tenter mais il résiste, il n'ouvre pas. Donc, vous voyez, c'est pas un salaud, ok? Il a eu un moment de faiblesse, il a craqué à un moment donné, mais c'est pas le mauvais bougre, il recommencera pas.
Et puis, leur demande pas, quoi. Hein,
voilà, et puis finalement, ouais, il l'a pas violé non plus. Ultime scène complètement stupéfiante, on voit Velarde un matin dans un lit, le réveil sonne, une espèce de lumière verte dans la salle. Il se tire péniblement du lit, et là, on voit en arrière-plan le corps endormi de Rosario. Donc, on nous fait comprendre qu'ils ont passé la nuit ensemble, apparemment de manière consentie. Elle dort paisiblement, elle est filmée de loin. Et de toute façon, ce qu'elle pense ou ce qui s'est passé n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la scène de l'agression, Rosario ne parle plus à aucun moment. Autant avant, elle était affable, elle racontait sa vie, c'était elle qui faisait la conversation, qui était très avenante, etc. On avait des éléments sur qui elle était. À partir du moment où il y a l'agression, elle ne dit plus un mot. Donc on ne connaît pas ses motivations, on ne sait pas pourquoi elle revient sonner chez l'agresseur alors qu'elle a subi une agression. Mais qui fait ça? Enfin, par quel hasard elle finit dans un lit avec son agresseur après une nuit passée ensemble? Ça, on ne le saura pas, mais on nous le montre, tranquille. Comment vous pouvez nous faire croire que ça arrive? On distille ce genre d'idée et on la colle dans l'inconscient du spectateur, mais bien sûr, dans la vraie vie, quand on est agressé sexuellement, On ne revient pas à se jeter dans la gueule du loup et on cherche à l'éviter à tout prix. Le viol brise des vies. Donc à un moment donné, on est dans la confusion, on se dit mais en fait, est-ce que c'est Velarde, le serial violeur, le serial killer? Et puis on se dit non, finalement non, mais en fait, ça aurait pu être lui, lui ou un autre, lui et un autre. Évidemment, pour nous expliquer tout ça, le réalisateur nous ressort le complexe d'Oedipe, c'est à cause de leur mère. Donc le violeur en série et Velarde ont eu des mères maltraitantes.
Et ben voilà.
Donc c'est à cause de cette maternité dysfonctionnelle qui va avoir de graves conséquences sur l'équilibre psychique des fils. Et donc là, je vais commencer à comprendre le titre du film. Je commence à comprendre le titre du film. Que Dios nos perdone, c'est en gros que Dieu nous pardonne, nous les hommes, on n'y peut rien, on est tous des animaux, flics ou criminels, victimes de nos pulsions, et il n'y a plus qu'à demander son salut à Dieu, qui ne nous maltraite pas trop quand on sera mort, parce que là sur Terre, désolé, mais on n'y peut rien, on ne va pas pouvoir se contrôler quoi. Et donc le réalisateur va filer la métaphore du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire force un peu la fille à avoir une relation sexuelle, si elle ne consent pas au début, elle finira par aimer ça, par revenir et on redemandera. Donc on est en plein dans la culture du viol, dans son impunité, son affichage et son érotisation. D'ailleurs, en faisant une petite recherche filmographique sur ce réalisateur, il se trouve que son précédent film en 2013 s'appelle Stockholm et aborde déjà clairement les relations tumultueuses, entre guillemets, entre une fille et un garçon. Et la bande-annonce laisse clairement comprendre qu'on a affaire à un réalisateur récidiviste et qu'il a développé les mêmes thèmes. C'est quoi ton problème ? Donc ce qui m'a rendu folle, en fait, c'est cette différence abyssale entre l'évocation du viol au cinéma, en littérature, dans les séries. On est en permanence dans la surenchère, aucun crime n'est jamais assez abject, et d'en parler aussi peu dans la société. Il y a 580 000 femmes entre 20 et 69 ans qui sont victimes de violences sexuelles en France métropolitaine par an. C'est l'enquête Virage qui l'a révélé récemment. Je rappelle que c'est au sein de l'espace privé, c'est-à-dire dans les relations avec la famille, les proches, les conjoints, ex-conjoints, y compris les petits amis, que se produisent l'essentiel des viols et des tentatives de viol. Du coup, je me suis demandé, en parler au cinéma, en littérature, est-ce que ça contribue à faire exister ce problème, mais on en parle dans quel but ? Est-ce que c'est juste un ressort dramatique et tragique ? Est-ce que c'est un levier qui devient bankable ? Est-ce parce que c'est toujours plus trash, toujours plus gore ? Ou est-ce qu'on en parle pour que ça s'arrête, une bonne fois pour toutes ? Mais en parler pour que ça sème encore le doute sur de quel côté est la responsabilité. Exactement. Et de quel côté est la faute, moi ça me convient pas du tout. Évidemment, les critiques sont dithyrambiques, le renouveau du polar espagnol, et ça a bien sûr eu le prix du meilleur scénario au Festival de Saint-Sébastien en 2016. Pour finir, du coup, j'ai trouvé une référence d'une féministe américaine radicale qui s'appelle Andrea Dworkin, et qui a écrit en fait un texte qu'elle a prononcé en 83 devant une conférence qui rassemblait que des hommes, la Midwest Regional Conference de la National Organization for Changing Men, et qui s'appelle « Je veux une trêve de 24 heures durant laquelle il n'y aura pas de viol ». La honte des hommes face aux femmes est, je pense, une réponse appropriée, à la fois pour ce que les hommes font et pour ce qu'ils ne font pas. Je pense que vous devriez être honteux, mais ce que vous faites de cette honte, c'est de vous en servir comme excuse pour continuer à faire ce qui vous arrange et continuer à ne rien faire d'autre, et vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Votre psychologie ne compte pas, combien vous souffrez importe en définitive assez peu que combien nous souffrons. Si nous nous étions juste assises pour se dire à quel point le viol nous fait du mal, pensez-vous qu'il y aurait eu un seul des changements que vous avez vus dans ce pays ces 15 dernières années ? Il n'y en aurait pas eu.
Moi, je voudrais rajouter que c'est justement à cause de ça que moi, j'ai arrêté de lire des polars, parce qu'il y a un moment donné, tous ces corps de femmes violentées, tuées, alors que je veux dire que c'est quand même 80% de la lecture française. Je me suis dit stop, je ne veux plus lire ce genre de choses. Donc ça me fait penser un petit peu à ça.
Bref, Que Dios nos perdone est un nouvel exemple de trop, d'une culture du viol assumée, d'un scénario où on sème le doute sur la culpabilité de l'agresseur, sur l'importance du consentement des femmes, et où on parle de viol toujours plus abject pour ne rien avoir à en dire, pour ne pas tenir de discours politique et féministe dessus, mais juste dans une surenchère du morbide dans laquelle le corps détruit et martyrisé des femmes n'est qu'un ressort dramaturgique.